L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la
moutarde. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous est-il déjà arrivé de suivre une recette de cuisine? On effectue chacun des gestes étape par étape. On pèse, on découpe, on hache et mesure. On tient à éviter toute erreur. Mais cette erreur, sans s'être lissée dans nos gestes, est en réalité dans la recette même. Scandale et sacrilège, le plat est à recommencer.
Une fois un tout petit bourreau, pas plus grand que trois noix et pas beaucoup plus gros. Des hautes et basses œuvres étaient exécuteurs, et pour les basses œuvres étaient à la hauteur. N'avait jamais de trêve et jamais de repos, car en place de grève, il faisait.
Notre invité aujourd'hui n'aurait jamais laissé imprimer une recette fautive, puisque la méticulosité est son métier. William Skiff, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à table avec nous.
Bon appétit.
Bon appétit à tous. Donc, quel est ce métier qui demande tant de rigueur?
C'est un métier de l'ombre. Nous sommes des femmes et des hommes de l'ombre. On se cache toujours derrière un clavier, derrière un écran d'ordinateur. Généralement, personne ne nous voit. On voit le juge, on voit le procureur, on voit l'avocat, on voit le policier. Le greffier, ben, on ne le voit pas parce qu'il est dans le tableau, mais comme les personnages qu'on ne voit pas dans les tableaux.
Vous êtes donc greffier?
J'étais donc greffier pendant quelques années, 35 plus exactement, et avec cette particularité que je faisais absolument que du pénal.
D'accord.
Donc le noir de l'homme.
Et donc une journée de greffier, ça se passe comment?
Alors, tout dépend du service, mais ce qui me concerne, c'était... J'ai travaillé à l'instruction et au tribunal correctionnel. Donc, c'est des audiences quand j'étais en tribunal correctionnel, donc avec le juge, le procureur, et les affaires qui passent et repassent, d'ailleurs. Mais généralement, je préférais l'instruction parce qu'on est dans un cabinet avec un juge d'instruction et on prend note des débats. Personne présente, pourquoi, ce pourquoi ils sont là, on convoque les parties, on fait les réquisitions d'extraction, enfin énormément de choses, travail, ce qu'on appelle du travail de greffe à l'instruction, mais essentiellement les auditions, confrontations, reconstitutions, transport sur les lieux, voilà.
Et votre métier est donc de noter?
Noter et puis vérifier scrupuleusement l'état de la procédure et puis construire le dossier, c'est-à-dire pièce par pièce, les côtés une par une. Et puis, tout articuler. La personnalité, le fond, la forme, et surtout la forme. Mmh.
Donc, la rigueur n'est pas une compétence à avoir en plus, mais une compétence fondamentale. Vous êtes devenu auteur, donc depuis 2023, avec un premier ouvrage qui était une forme de témoignage de ce que vous aviez vécu pendant votre carrière, intitulé « Sous l'œil du greffier », édité chez Spinel. Mmh.
C'est ça, en fait, ce premier ouvrage, c'est un récit. Un récit de ces 35 années, pour certains, un moment d'horreur, pour d'autres, beaucoup moins. Mais un récit d'une quarantaine d'affaires qui m'ont particulièrement touché, moi.
Cet ouvrage, il vient clôturer cette carrière. C'est pour vous, c'était le chemin, le bout du chemin, quelque part, ou le début de quelque chose d'autre?
Non, c'était le clap de fin, en fait.
Le clap de fin?
Voilà, exactement. C'était, dès que j'ai pris ma carrière, mes enfants m'ont dit « t'as qu'à écrire un livre, ce que j'ai fait ». J'ai mis beaucoup de temps parce que c'est dur, c'est très dur d'écrire un livre, d'écrire bien. Heureusement, je suis bien entouré, et voilà.
Et puis même ce dont vous témoignez dans ce texte-là, et quand même, on sent la sincérité, on sent la véracité, c'est très poignant. Il y a certaines affaires qui ne laissent pas, qui ne peuvent pas laisser insensible.
Hein. Non, on peut pas être indifférent. Alors bon, on se cale un peu, on se durcit, on s'habitue. Faut bien le reconnaître, on s'habitue à certaines affaires. Les viols, les assassinats, alors je ne dis pas qu'on est imperméable, mais enfin, on s'habitue, quoi.
On apprend à créer une distance professionnelle ?
Oui, toujours, oui, toujours, bien sûr. Et puis j'en discutais avec des psychiatres, psychologues, parler, toujours parler.
C'est salvateur.
Mais pas tout non plus, puisqu'il y a le secret de l'instruction.
Ah oui, voilà. Et oui.
Donc quand une instruction est en cours, on n'en parle pas.
D'accord.
Une fois qu'elle est close, terminée, jugée, définitive, on peut en parler. Ce que j'ai fait dans ce premier ouvrage.
D'accord. Et l'écriture a eu ce chemin salvateur aussi, ou a été vous a fait du bien en soi ?
Alors, ça n'a pas été salvateur parce que, au fait, j'en éprouvais pas spécialement besoin, mais j'ai aimé. Ouais. J'ai aimé l'écrire, j'ai aimé faire partager et surtout faire connaître cette profession totalement ignorée.
Donc, ce premier ouvrage en 2023 a trouvé son public auprès de professionnels, mais auprès aussi du grand public qui s'intéresse à ce qu'on appelle, nous, en librairie, le true crime, donc les vrais crimes, en fait. C'est-à-dire qu'on a envie de connaître des histoires ou des faits divers ou d'une expérience réelle. C'est une vraie habitude de lecture pour certains lecteurs du rayon polar, policier, roman noir, cette appétence pour le vrai. Aujourd'hui, donc en 2026, vous publiez aux toutes jeunes éditions Aurialis Le Greffier. Sous-titré, il connaît la loi, il va s'en servir. Vous pouvez nous parler de cet ouvrage ?
Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un livre à suspense. On découvre, je n'ose pas dire page par page, mais on découvre au fil des chapitres ce qui se passe réellement. Et il y a énormément de rebondissements. Choquant peut-être pour les uns et les autres, mais on découvre tout page par page. J'ai déjà quelques retours et les gens sont... On a parlé de... Enfin bon, j'ai des bons retours.
Oui, donc on peut quand même dévoiler le tout début peut-être de l'histoire. Oui. Donc nous lisons la vie d'un greffier. Je vous laisse...
Oui, alors il s'agit de Mathieu Langlois, puisque lui, on peut en parler... Donc, qui n'existe pas, évidemment, puisque c'est s'agissant d'un roman, mais c'est un greffier. Un greffier un petit peu particulier, qui fait très bien son métier, qui fait très bien son travail, scrupuleux, attentif, mais qui, tout à fait fortuitement, va rencontrer une jeune femme et qui va lui mettre le doigt dans l'engrenage et il va être sollicité, entre guillemets, par des narcotrafiquants. Et après, je ne peux pas trop en parler, mais il va être mêlé de très près à un trafic international de drogue, des assassinats, des complices.
Une vie trépidante à laquelle il n'était pas appelé au départ.
Absolument, ce n'est pas son métier. Son métier, c'était gratte-papier, comme la plupart des gens pensent que nous sommes. Donc, c'était un pauvre gratte-papier qui faisait bien son métier, mais sa vie va être complètement bouleversée par cette rencontre.
Donc... Cet ouvrage se déroule dans quel tribunal ?
Alors à Montpellier. Tout se déroule à Montpellier et les environs, puisqu'on va aussi dans les bois du Baillargues, du côté de Clapiers.
Oui.
Donc on se promène un peu, on va à Palavas, on va à la Grande Motte, mais tout est dans la région et particulièrement à Montpellier, au tribunal judiciaire de Montpellier.
Et ça n'a pas posé souci d'inclure ça dans la fiction ?
Aucun.
Aucun.
Aucun, parce que tout ce dont je parle, les gens le savent, le voient, le connaissent, donc voilà.
Très bien. Donc, le roman noir, comme je le disais tout à l'heure, est un genre qui fonctionne bien en librairie. Donc, avec des lecteurs qui sont quand même souvent boulimiques, inconditionnels du genre, et fait assez rare, donc 23% à surlire au moins un roman noir, policier, thriller et autres, par semaine, et 12% de 2 à 5 romans par semaine, ce qui est quand même... énorme, là, ils lisent aussi autant que les professionnels hein, en termes de quantité. Donc voilà, le roman noir, le genre du roman noir, ce segment éditorial, c'est 6600 nouveautés en 2024. C'est des chiffres que vous aviez en tête quand vous vous êtes lancé dans ces écritures?
Non, pas du tout. Puis j'avoue que ça m'importait peu.
Ça vous importait peu. Ouais. Donc, c'est un segment littéraire qui est très stable en termes de vente pour les libraires. Voilà. Donc, jusqu'à 2026, en tout cas, c'est quand même un rayon dans lequel il faut savoir se faire sa place. Comment est-ce que vous vous positionnez en tant que nouvel auteur? Alors, par rapport à cette réalité.
J'ai un petit peu de mal avec le mot auteur et comme t'entends, mes copains m'appellent l'écrivain pour me faire rire, mais ça me fait rire parce que c'est pas de la littérature, hein. c'est un roman noir, mais je sais effectivement, et je suis bien au courant, ça accroche énormément les gens. Les gens à l'issue du premier livre, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un polar? T'as tous les ingrédients pour faire un polar, fais-le. Bon, j'ai dit non, 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 et puis finalement, bien sûr, évidemment.
Et c'est venu tout seul, ce roman?
Ouais, seul, et alors c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais seul et très facilement en plus, hein, parce que bah, la matière, je l'avais pendant 35 ans, j'avais tout sous le coude dans la tête, il suffisait de raccrocher les uns avec les autres, et puis ça marche, quoi. Et puis c'est beaucoup plus facile qu'un récit, le récit, il fallait que ce soit juste et exact, oui. Alors que le roman, vous faites ce que vous voulez. Mm-hmm. Vous êtes totalement libre. Et puis, c'est invérifiable, évidemment.
Donc, il y a vraiment, même si on cherche, si on farfouille dans les faits divers des 20 dernières années, on ne peut pas retrouver...
Si, on peut retrouver. Il y a certaines réflexions, certaines pages qui pour certains qui connaissent... c'est un peu le milieu judiciaire, quand même. Hein. Ouais, quand même. On peut retrouver quelques affaires. Mm-hmm. Enfin, pas sûr, quand même.
Pour terminer cette première partie d'émission, est-ce que vos consoeurs, vos confrères vous soutiennent? Quelle a été leur première réaction quand vous leur avez expliqué? Ben voilà, moi j'ai écrit un premier livre, donc témoignage.
Vous parlez de mes confrères greffiers?
Oui,
mais j'ai très, très peu de contacts. Vous savez, quand on part à la retraite, on vous oublie très rapidement.
Ah, non, je ne savais pas.
Donc j'ai encore quelques contacts, bien sûr, avec quelques greffiers, quelques magistrats et avocats. Mais je rencontre beaucoup plus des copains avocats, magistrats que des greffiers, parce que les greffiers, il y a un turnover à Montpellier qui fait que les gens sont partis et les gens nouveaux ne me connaissent pas, tout simplement.
D'accord. C'est un métier dans lequel on ne reste pas longtemps, ou c'est parce qu'on change de tribunal fréquemment pour les besoins du...
Alors,
je suis curieuse, hein.
Non, mais vous avez raison. Alors, je suis un des seuls, je suis quand même assez rare. Alors, une fois de plus, c'est pas prétentieux, mais être resté 35 ans dans la même ville, parce qu'il y a les aléas de la vie familiale, la vie personnelle des gens qui peuvent changer de métier, d'épouse, de conjoint, et partir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir...
Ce n'est pas une nécessité du métier de greffier, de changer régulièrement de lieu
Sauf pour changer non pas de profession, mais de spécialité. Des gens qui font essentiellement du divorce et des affaires civiles, bon, ceux-là, ils n'ont pas envie de faire du pénal. Et de temps en temps, ils goûtent au pénal et ils disent merci, c'est pas pour moi, quoi.
D'accord.
Oui.
D'accord. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous allons écouter donc le morceau choisi par notre invité. Vous écoutez L'Épluche Libre, nous sommes en compagnie de William Skive, greffier et auteur à 16h. William Skive, est-ce que vous avez des anecdotes de carrière à nous raconter?
Alors oui, bien sûr, des anecdotes, mais elles sont pas très rigolotes quand même. C'est surtout des anecdotes qui sont pas très très intéressantes. Sauf une peut-être où je participais un soir à une soirée où il y avait une réalisatrice connue, pour ne pas la citer, qui s'appelle Anne Fontaine, qui cherchait des comédiens pour faire, de mémoire, c'était La Fille de Monaco, et donc il y avait un tribunal. Et quand mon tour est arrivé, elle a fait le tour de tous les gens qui étaient là. Il y avait des juges, des avocats. Et moi, elle me dit, toi, tu fais quoi? Je dis, moi, je suis le greffier. Et donc là, elle me dit, c'est celui qui ferme sa gueule, ça. Et donc, effectivement, je lui dis, bah oui. Et effectivement, le greffier se tait en permanence. Il ne prend jamais la parole, très exceptionnellement, sur interrogation du président ou du procureur pour un problème de procédure. Mais il ne prend jamais, jamais la parole. Il se tait.
Il peut interagir quand même avec la cour, avec les autres professionnels sur place?
Interagir?
Oui, comme dans le roman, par exemple.
Alors, on interagit dans le roman, oui, mais alors ça, c'est à l'instruction, pas au tribunal.
D'accord.
Mais à l'instruction, le juge qui mène les débats et les interrogatoires a une console, donc il peut voir tout ce que j'écris sur mon écran, sur mon clavier. Et là, effectivement, j'interagis sur le comportement, sur... Je glisse, hein, t'as vu la tête qu'il fait, ou il ment.
Et ça, c'est véridique, parce que ça, on le retrouve dans votre dernier roman.
Oui, bien sûr. Oui.
D'accord.
C'est intéressant, parce que justement, le juge, qui lui n'a pas de clavier, on avait un code avec le juge, c'était Will, vous êtes en majuscule. Hein. Ça veut dire qu'elle comprenait exactement ce que j'avais dit, et elle opinait, quoi. Elle était d'accord, bien sûr.
Donc, deux vraies anecdotes. Merci beaucoup. Très intéressante finalement, dont une se retrouve dans votre dernier roman, donc chez Aurialis, qui s'intitule Le Greffier. Comme vous le savez peut-être, dans cette émission, on s'intéresse donc pour cette saison 2025-2026 aux inspirations, aux habitudes d'écriture, au processus de création en littérature. Donc pour entrer un petit peu sur ce chemin de discussion, je vous propose de réfléchir ou peut-être de nous partager un souvenir littéraire ou des lectures qui vous ont inspiré, qui ont marqué votre parcours.
Alors, Badinter.
Oui.
Badinter, c'est... S'il n'y a pas Badinter, il n'y a pas de Skive, hein, ça c'est sûr. Hein,
carrément.
Ah oui, enfin Skive professionnel, j'entends.
Hein. Vous l'avez découvert comment?
Alors, je l'ai découvert à Troyes, puisque je suis Troyen d'origine, et dans le procès de Patrick Henry, j'y étais.
D'accord.
J'étais dans la salle et j'ai découvert cet homme qui a été conspué par la suite par la moitié des Troyens parce qu'il avait sauvé la tête de Patrick Henry. Donc en 77, j'ai assisté à la plaidoirie de Robert Badinter, une plaidoirie exceptionnelle qui était incroyable, quoi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et ce qui m'a fait m'inscrire à la fac de droit.
Ah oui?
Voilà,
et ensuite, vous avez lu ces textes qui soient...
Ah, oui, et puis j'ai eu la chance de le rencontrer à Montpellier dans une conférence débat qu'il était venu donner. C'était un personnage exceptionnel. Alors, comme garde des Sceaux, c'est pareil, hein, exceptionnel. Hein. Donc ça, oui. Donc l'exécution, et d'autres.
Mm-hmm. Donc des souvenirs littéraires, mais aussi une admiration.
Ah oui, pour lui, pour une admiration. Mm-hmm. Sinon, j'aime beaucoup aussi les polars, hein.
Oui,
j'aime bien Vargas. Je viens de démarrer le dernier, là. Oui. Je suis dedans, j'étais juste dedans avant de venir. Bon, c'est du Vargas, quoi. C'est bien. Danglars, tout ça, c'est très bien. Tout ça.
Vous aussi, vous êtes un boulimique du genre?
Non, je ne suis pas boulimique. Je ne lis pas beaucoup, en fait. Hein. Je lis peu parce que j'ai des problèmes de vue, parce qu'il me faut de la lumière, parce que j'ai quelques difficultés, mais... Non, mais je ne suis pas boulimique. Ma femme, oui.
D'accord. Oui. on lui rend hommage, d'ailleurs, oui. Si pas je peux dire.
Ouais,
pas que pour ça, ouais. Oui. On lui fait un coucou. Donc, vos sources d'inspiration sont quand même assez impressionnantes. Et quant à vos habitudes d'écriture, est-ce que vous avez Voilà, votre écriture se passera plutôt le matin, le soir, à votre bureau, dans un café. Est-ce qu'il y a une ambiance, une musique
non,
que vous écoutez?
Non, alors c'est n'importe où. Enfin, c'est pas n'importe où, c'est à la maison, chez moi. Chez moi et n'importe quand, par contre. Mmh. Dès qu'une idée... Alors, le dernier, c'était rigolo, parce que les gens disent « Oh là là, mais ça, il a une idée, il y va hein. !» Et donc, effectivement, je partais dans le bureau et j'étais parti pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure.
Ça peut être à tout moment, quand. Vous quittez la table, la conversation, l'activité.
Dès que mon fil revient, dès que j'ai une nouvelle idée, hop, je file, quelle que soit l'activité. Et donc, heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, parce que ce second livre, j'ai mis que 10 mois, en fait, pour l'écrire, ce qui me semble très court par rapport au premier. Le premier, j'ai mis quand même 2 ans.
D'accord.
Donc là, celui-ci, en 10 mois, mais bon, ça venait très facilement et bien, quoi. Enfin, bien. Après, c'est devenu bien. Après, les corrections. Beaucoup de corrections.
Et vous écrivez donc sur ordinateur?
Oui.
Oui.
Au clavier, puisque je suis habitué au clavier maintenant. Hein.
Oui.
Quoique, quand j'ai démarré, attention, en 85, c'était la plume. C'est-à-dire, quand je dis la plume, c'était le stylo. Hein.
Oui, oui.
Voilà, le greffier tient la plume, hein. c'est bien connu. Et donc, c'était la note d'audience, je la tenais à la plume.
D'accord.
C'est une horreur. C'est une horreur.
Oui.
Après, ça a été la machine à écrire. Et puis, maintenant, c'est les claviers, ordinateurs. Un vrai bonheur, parce qu'on corrige tout, c'est parfait.
Ah, oui.
On ne rend pas un torchon à l'issue de l'audition.
Oh, on ne se rend pas compte. Je suis contente d'avoir ces informations-là, parce que c'est vrai que la technologie, les outils numériques...
Ah oui, oui, oui. Et puis on voit ce qu'on écrit. Enfin, c'est génial, quoi.
Ouais. Donc, pour en revenir, vous disiez, mon texte donc, s'écrit... Je perds le fil, je m'arrête, ça me reprend, j'y retourne immédiatement. Ça s'est écrit rapidement, selon vous, du premier coup, entre guillemets, enfin, du moins 10 mois pour le second. Et vous avez parlé de correction. Donc, je voulais vous questionner, peut-être pour terminer cette émission, sur le parcours éditorial. Comment vous avez réussi à être publié? Comment vous avez rencontré vos éditeurs successifs?
Alors, oui, enfin, c'est très facile. Hein. Je ne suis pas du tout connu, donc c'est pas compliqué. J'ai envoyé le manuscrit à beaucoup d'éditeurs, des connus et des inconnus. Et pour le premier, ça s'est pas trop mal passé, ça se passe bien. Et puis pour le deuxième, qui est le même, ça se passe très bien aussi. Et je l'ai connu complètement par hasard. J'ai vu sur Instagram une publicité sur un livre qui s'appelle La Robe, de Orialis, des éditions Orialis. Ça m'a appelé mon regard immédiatement. Je crois que c'était le but recherché et c'est gagné. Je lui ai envoyé. 2 jours après, j'avais une réponse positive.
D'accord.
Et donc, comme quoi, Instagram, les réseaux, ça marche.
Ah oui, aujourd'hui, ça reste quand même... Ouais, ça crée des opportunités. Et donc, ce travail d'échange avec la maison d'édition, ce travail autour du texte, comment vous l'avez vécu et comment ça se passe concrètement?
Alors, très bien, parce que je lui envoie le manuscrit. Je dis elle parce que c'est une éditrice. Me propose des corrections avec toute la simplicité qu'il faut. Et j'acquiesce ou je refuse, mais dans tous les cas, c'est toujours très poliment qu'elle me dit « Je pense que, est-ce que vous pensez que c'est toujours comme ça ?» Et puis, les corrections apportées sont excellentes, donc encore merci, c'est l'édition Orialis. Et des échanges essentiellement téléphoniques et par courriel.
D'accord. Ouais. Combien d'allers-retours a fait votre dernier texte?
3.
Trois allers-retours correctifs.
Trois allers-retours, mais je me suis retrouvé encore quelques blagues.
Quelques blagues,
ouais.
C'est-à-dire
quelques corrections qui n'allaient pas. Mais donc, on va dire que ce sera un quatrième jet. Voilà. Mais c'est bon, maintenant, c'est prêt.
Maintenant, c'est prêt, vous êtes content donc,
Ah oui, je suis très, très content, parce que les corrections apportées sont excellentes.
Très bien. Est-ce que vous avez des actualités à nous faire partager, étant donné que voilà, vous portez donc la diffusion et la promotion de ce dernier ouvrage qui est paru au printemps? Est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement quelque part, en librairie, sur un salon?
Alors, dans un premier temps, à l'Épluche Libre.
Oui, c'est
voilà,
vrai. Le 6 juin.
Qui m'a donné ma première dédicace il y a 3 ans déjà, ça m'a fait très plaisir. Donc le 6 juin, à l'Épluche Libre. Normalement, j'ai eu un contact avec le vice-bâtonnier du barreau de Montpellier. Je devrais faire des dédicaces à l'ordre des avocats ce mois-ci, mais je n'ai pas je n'ai pas de nouvelles au moment où on se parle. Ensuite, je vais dans un domaine viticole très connu qui s'appelle Décalage. Mm-hmm. Et je vais faire une dédicace le 11 juin. Et puis, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Mais je pense que je vais en contacter d'autres.
Un domaine viticole, je me permets, il nous reste une minute de raccrocher, parce que dans votre ouvrage, donc Le Greffier, on y boit et on y mange bien.
Oui, mais j'aime bien boire et bien manger, oui.
Ça se sent.
Et notamment, je parle du domaine de Décalage, où effectivement, on est toujours très bien accueillis, on fait des bonnes soirées, c'est très sympa, oui.
Oui. Vous avez fait d'autres clins d'œil comme ça dans le texte, lieux que vous connaissez, à des personnes que vous appréciez.
Vous allez reconnaître, si vous êtes Montpellierin, vous allez reconnaître beaucoup d'endroits. Il y a l'Arbre Blanc, il y a le Domaine des Aubes, il y a beaucoup d'endroits très connus des Montpellierins. On est chez nous, quoi, et on reste chez nous.
Mais merci beaucoup, Monsieur Skim, d'avoir participé à cette tablée. Et merci beaucoup à nos auditeurs, nos auditrices. Je vous dis à bientôt sur L'Épluche Livre.
L'Épluche Livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que vaut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter en fait les premières couches comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange
des cornichons, de la moutarde, du pain et beurre.